Je vous invite à commencer par la prière. Notre Dieu, que ta parole est précieuse. Elle a tellement de choses à nous apprendre. Et Seigneur, que ton évangile est beau. Tu nous as apporté une bonne nouvelle qui a transformé l'humanité et qui a transformé notre vie à chacun d'entre nous. Merci pour cet évangile qui est vrai, sur lequel on peut se confier. Et Seigneur, je te prie de nous éclairer ce matin, de nous éclairer encore une fois sur ta parole. Amen. Alors, ce matin, j'ai le privilège d'introduire le début d'une série sur Galates, sur l'épître aux Galates. Donc du coup, il y aura d'autres messages sur la suite de Galates. Et donc moi, je vais vous présenter l'introduction à l'épître, les 10 premiers versets. Mais c'est une introduction qui entre déjà dans le vif du sujet. Et qu'est-ce qu'il veut nous apporter ? Eh bien, il veut nous apporter le message qu'il y a un seul vrai évangile. Alors, du coup, il y a un seul évangile, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors, Galates, c'est une des épîtres qu'on pourrait qualifier des plus importantes. C'est probablement la première épître écrite par Paul. Alors, on va revenir juste après sur les questions de à qui est-ce qu'elle a été écrite et quand. Mais en tout cas, c'est probablement l'épître qui introduit donc cette idée de la justification par la foi seule. Et c'est aussi elle qui commence à construire l'identité de la foi chrétienne en faisant la séparation avec le judaïsme, de dire qu'est-ce qui fait que la qu'est-ce qu'est la foi chrétienne. Enfin, elle défend le vrai évangile en descendant les faux évangiles qui commençaient à y avoir. Alors du coup, si on peut avoir la slide suivante. Alors là, vous voyez, c'est la Turquie. Pour la localisation géographique, il y a deux possibilités de savoir qui sont les églises de Galate à laquelle écrit Paul. Donc c'est soit les églises plus au sud, où là on voit, c'est les églises dont on parle dans Actes, donc Antioche, non pas Antioche, mais Iconium, Derbe, Lystre. Donc c'est ces églises-là. Donc ça, c'est la possibilité que ce soit les églises au sud de la Galatie. Sinon, il y a aussi la possibilité que ce soit les églises plus au nord, puisqu'en fait, le sud, c'est la Galatie romaine, et le nord, c'est la Galatie, on va dire, ethnique. Donc, les Galates habitent dans la Galatie du nord, sauf que pour les Romains, la province romaine de la Galatie s'étendait partout. Et donc, pendant, on va dire, jusqu'au XVIIIe siècle, tout le monde était d'accord pour considérer que c'était la Galatie du Nord à laquelle écrivait Paul, puisque, en fait, on ne savait pas que la Galatie du Sud, qu'elle était appelée Galatie, puisqu'à partir du IIe, IIIe siècle, on avait changé le nom. Mais du coup, il y a pas mal d'indices qui nous laissent penser que c'est quand même plutôt la Galatie du Sud, donc les églises fondées avec l'aide de Paul pendant son premier voyage missionnaire. Il y a plusieurs indicateurs, par exemple, le fait que il semble assez logique que Galates soit écrit avant Acte 15, puisque dans Acte 15, c'est là qu'il y a toute une question sur quelles sont les règles de la loi mosaïque à laquelle on doit obéir en tant que chrétien. Et les apôtres de Jérusalem vont donc donner des indications claires là-dessus. Et donc on supposerait que si Galates avait été écrit après, que Paul aurait sûrement donné cette indication-là comme étant un argument. D'autres choses, c'est plutôt la Galatie du Sud qui a une population juive. Et en effet, il y a des juifs dans l'église de Galates, à ce qu'on voit. Et Paul appelle souvent les églises par le nom de la province romaine dans laquelle ils sont. Il y a d'autres indicateurs, mais en tout cas, Si c'est en effet la galaxie du Sud, ça correspondrait à une écriture très tôt de l'épître aux Galates, et que ce soit la première épître. Alors, en tout cas, cette épître se situe au début de l'histoire de l'Église, au début de l'Église en tant que telle, et donc Paul va s'intéresser à répondre aux hérésies naissantes. Et c'est pas étonnant que des hérésies naissent si vite, notamment puisque voilà, les choses ne sont pas encore très construites. On a les fondements de Jésus, mais on n'a pas encore voilà, toutes ces épîtres de Paul, tout ce que Dieu va apporter de plus. Et donc là, Paul va s'intéresser, dans l'épître aux Galates, à deux hérésies en particulier. La première hérésie, c'est de vouloir ajouter à la justification par la foi. Donc de dire, la foi ne suffit pas, il faut quelque chose en plus. Et donc là, il y a deux aspects à ça. Il peut y avoir les œuvres bonnes, donc de dire, il faut faire des choses bonnes pour mériter de la faveur de Dieu, ou les œuvres de la loi mosaïque, donc de la loi de Moïse, par exemple, se faire circoncire, et ainsi de suite. Donc il faut la foi, et se faire circoncire. Et donc, cette hérésie-là est propagée par ce qu'on appelle bon, les judaïsants, des chrétiens a priori d'origine juive, qui ont peut-être du mal à s'adapter à la nouvelle alliance, qui veulent garder leur identité juive, ou, comme on le verra plus tard, mais pas ce matin, aussi potentiellement par des mauvaises motivations pour, on va dire, asservir les nouveaux chrétiens. Mais, face à cette hérésie-là, de vouloir ajouter à la justification par la foi, il y a aussi, on va dire, l'hérésie inverse, qui est de penser que parce qu'on est sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Que parce qu'on est sous la grâce, on n'est plus lié à la morale de Dieu, à l'éthique de Dieu. Et voilà, c'est bon, une hérésie complètement opposée à l'autre, mais c'est aussi un travers dans lequel on peut tomber. Et voilà, on trouve ces dérives doctrinales encore aujourd'hui. Elles sont tenaces. Et donc, voilà, qu'est-ce que Paul veut apporter aux Galates? Qu'est-ce qu'il veut nous apporter à nous? Il veut nous montrer, remontrer le vrai évangile en nous invitant à rester fidèles à cet évangile et ne pas regarder à toutes les autres options qui ne sont que des faux évangiles. Et donc je vous propose de lire avec moi dans Galates 1, donc je vais lire dans la seconde 21, nous allons lire les 10 premiers versets. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile du Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, ou dans d'autres versions, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc Paul, il va commencer en disant pourquoi est-ce qu'il faut le croire? Quelle est sa légitimité? À leur dire quel est le vrai évangile. Et il va donc commencer en se présentant comme l'apôtre venu de Dieu. Un apôtre, c'est donc quelqu'un d'envoyé, et dans le Nouveau Testament, c'est quelqu'un, un messager, avec un statut spécial. Quelqu'un d'envoyé par quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui a cette autorité, et dans le Nouveau Testament, cette personne, c'est Dieu. L'apôtre, c'est donc quelqu'un envoyé avec ce statut spécial par Dieu. Et tout de suite, on peut faire la comparaison avec les douze, et c'est ce que font les opposants de Paul. Ils vont dire, Paul, bon, c'est pas un vrai apôtre. Les vrais apôtres, c'est les douze de Jésus, les douze disciples. Mais Paul va se justifier en disant que non, lui a été choisi directement par Jésus. Et c'est ce qui est arrivé quand il était sur le chemin de Damas. Il a été choisi par Jésus pour son ministère particulier. Et il ne se considère pas comme inférieur aux douze. Et on verra dans les semaines qui viennent, quand Pierre, par exemple, était dans l'erreur, Paul a repris Pierre aussi. Et donc, quelle est la légitimité de son ministère et de sa lettre? Elle lui vient de Dieu. Elle lui vient de Dieu parce que son apostolat n'est pas humain. Il n'a pas été choisi par des hommes. Il n'est pas venu par l'intermédiaire des hommes. Il n'a pas été envoyé par une autorité humaine. Alors, on pourrait dire, ah mais si, dans Acte 13, c'est l'église d'Antioche qui a envoyé Paul en mission. Mais si l'église d'Antioche a envoyé Paul, c'était parce que l'Esprit Saint l'a choisi. C'est l'Esprit Saint qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour cette mission. Et donc, l'apostolat, la mission de Paul vient directement de Dieu. Et pas juste, et c'est assez intéressant de noter, c'est pas juste Dieu le Père qui envoie Paul, mais il dit aussi, non, c'est aussi Jésus-Christ. Et là, c'est peut-être, quand on lit le Nouveau Testament, on dit, oui, c'est assez bateau, il y a Jésus, il y a Dieu le Père. Mais pour Paul, je vous rappelle que Paul était le persécuteur des suiveurs de Jésus-Christ. C'est lui qui mettait à mort quiconque considérait que Jésus-Christ était Dieu. Et donc, voilà, Paul qui dit « J'ai été envoyé par Dieu le Père et par Jésus-Christ », ça montre tout le chemin qu'il a parcouru. Ça montre aussi qu'il n'est pas le même homme qu'avant. Et donc, un détracteur qui dirait « Non, mais Paul, c'est le persécuteur », ça, c'était avant. Et donc, cet envoi par Dieu, par Jésus-Christ, c'est une façon aussi par Paul de dire que s'opposer à la bonne nouvelle que Paul annonce, c'est pas sa bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Et donc, dans les églises aux Galates, ce qui est remis en question, c'est pas la personne de Paul, mais c'est l'autorité même de Dieu et de son évangile. Et donc, pour défendre son message, que fait Paul? Il se défend. Et aussi, intéressant, Paul n'est pas seul. Il met bien en avant que tous les frères qui sont avec lui, c'est eux aussi qui apportent les salutations, oui, mais du coup, c'est pas quelqu'un seul dans son coin. Il fait partie aussi d'une communauté qui l'appuie. On ne sait pas exactement de qui il parle. Il est possible qu'il écrivait de l'église d'Antioche, donc c'est peut-être les responsables d'Antioche, peut-être l'équipe missionnaire de Paul. En tout cas, le message pour les Galates est porté par d'autres personnes aussi. Et donc même si c'est sûr que Paul a une autorité particulière, Paul parle de la part du Seigneur, mais il n'est pas non plus seul. Et donc, ça c'est au début du passage qu'on a ces indications-là, mais Paul va aussi revenir à sa défense à la fin du passage. Donc, de toute façon, on va revenir au milieu, ne vous inquiétez pas. Mais Paul va bien mettre à l'honneur le fait qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes, mais il cherche à plaire à Dieu. Et Paul a souvent été accusé un peu des deux côtés. Il a été accusé d'essayer de plaire aux Juifs. Donc, par exemple, dans Acte, Timothée va se faire circoncire voilà, pour justement ne pas être un scandale pour les Juifs. Mais là, du coup, les gens pourraient dire « Ah, mais Paul, il fait un peu les trucs pour plaire aux Juifs. » Et d'un autre côté, les judaïsants, les Juifs vont dire « Ah, mais attends, Paul, pour éviter de froisser les païens, il dit que bon, ils sont pas obligés de se circoncire, ils sont obligés de rien faire. Voilà, il fait ça pour plaire aux païens, aux hommes. » Mais voilà, ce que Paul dit, c'est si je me fais encore persécuter, c'est que je ne plais pas aux hommes, mais que je plais à Dieu. Et donc, voilà, on voit sa motivation, et c'est une motivation très importante, de savoir que Paul cherche à plaire à Dieu, et que donc, cet argument ne tient pas. Et donc, on a Paul, qui a donné l'assurance qu'il est légitime à parler aux Galates, alors parler du vrai évangile. Et il va donc leur apporter des salutations. Je vais passer au prochain. Il va leur apporter des salutations, mais des salutations centrées sur le vrai évangile. Et vous avez peut-être remarqué que l'entrée en matière est quand même beaucoup plus froide que ce qu'on peut trouver dans d'autres épîtres à d'autres églises. Dans la plupart des autres épîtres, même je pense quasiment tous, Paul va commencer son épître en disant « Ah, je remercie Dieu parce que vous êtes de telle qualité, parce que vous êtes fidèle, parce que... » Mais là, on n'a pas ça. On a une entrée en matière sans noter les qualités de l'église aux Galates. On a un avertissement plutôt vigoureux. On sent que Paul est vraiment inquiet pour la santé de cette église. Mais, même si on a un début austère, il va quand même commencer avec le souhait, d'ailleurs c'est le souhait qui revient dans toutes les autres épîtres, il va souhaiter que Dieu leur accorde la grâce et la paix. Et ce souhait, ce n'est pas n'importe quel souhait, puisque, en effet, ce sont les conséquences du vrai évangile. Comme on a parlé ce matin, la paix qui vient de cette réconciliation avec Dieu. Ce sont les conséquences de la grâce vécue, la conséquence du fait que maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Et donc ça, c'est une conséquence du vrai évangile. Si nous pouvons être en paix avec Dieu, en paix dans nos vies, c'est à cause de l'évangile. Et il leur demande à Dieu aussi de leur accorder sa grâce, la grâce qui est la remise de la dette, l'enlèvement de la culpabilité, l'adoption en tant qu'enfant. Voilà, c'est tout ça la grâce. Et la grâce, c'est ce vrai évangile. Et on va voir que c'est là en contraste aussi avec ce qui va être montré comme le faux évangile. Mais chose intéressante, dans tous les épîtres, Paul va dire que la grâce et la paix vous soient données de notre Père, Dieu le Père et Jésus-Christ. Dans certains épîtres, il va rajouter la miséricorde, la compassion, que Dieu vous donne sa grâce, sa paix et sa compassion. Mais dans Galates, c'est le seul épître où on a un rajout. Ce rajout, c'est ce qu'on peut lire au... lire au verset 4 dans d'autres versions c'est dans la même phrase, mais il s'est donné, donc Jésus lui-même, pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais conformément à la volonté de notre Dieu et Père. Et donc Paul a trouvé important de rappeler cet élément de l'évangile, du fait que Jésus s'est donné pour nos péchés, pour nous arracher au monde mauvais. Et c'est probablement aussi par rapport à la gravité de ce qui se passait à Galates. Ils avaient besoin de ces rappels, de ces indications, de ce rappel vraiment de qu'est-ce que c'est que le, de quel est le vrai évangile? Quelle est l'origine de la bonne nouvelle? Quelle est l'origine de ce qui s'est passé? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu le Père a fait que Jésus s'est donné. Quel était le moyen? Le moyen, c'est le sacrifice volontaire de Christ. Jésus qui s'est donné. Quel était le but? Payer pour nos péchés. Puisque nous, on ne pouvait pas payer pour nos péchés. Et à cause de ça, on était séparés de Dieu. Mais aussi, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est d'être arraché au monde mauvais. C'est-à-dire d'être délivré du pouvoir du monde. De vivre la liberté. Et donc, voilà, c'est facile de vivre des fois comme si rien n'avait changé quand on est devenu chrétien. Mais si on est réellement transformé, voilà, on ne vit plus selon le pouvoir de ce monde. Et Paul va terminer en parlant de la gloire de Dieu. À Dieu soit la gloire pour toujours, au siècle des siècles. Là encore, voilà, on peut dire ça un peu en réponse à la grâce que nous vivons, à la grâce qui nous a été offerte par l'Évangile. C'est la réponse naturelle à Dieu, à tout ce qu'il a fait pour nous. C'est de dire à Dieu soit la gloire. Et ça doit aussi être la motivation du chrétien véritable dans tout ce qu'il fait, de chercher la gloire de Dieu. Mais, donc, quel est ce faux évangile que Paul est en train de condamner? Alors, d'abord, que croient les Galates? Quel est le faux évangile par lequel ils sont tentés? Alors, Paul, il commence de façon assez dure en disant « Je m'étonne que vous détournez si vite de Christ. » Et se détourner, ça fait mal. Le terme en grec, c'est le même terme que déserter, le terme militaire. Je m'étonne que vous désertez si vite Christ, son évangile. On peut noter que c'est aussi au présent, donc c'est comme un acte qui est en cours. Ils sont en train de déserter, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas encore complètement là. Il dit aussi si vite. Alors, selon quand l'épître a été écrite, c'est possible que ce soit seulement 2 ans après la création de l'Église. Et dans ce cas-là, oui, je m'étonne que si vite vous vous détourniez, 2 ans après. Dans Actes 13 et 14, on lit que les Galates ont accepté avec joie l'Évangile. Dieu agit puissamment par des miracles et ils sont transformés, mais ils se laissent détourner. Christ les avait appelés, ils s'étaient tournés vers lui, et je pense qu'il ne faut pas dire que les Galates n'étaient pas convertis. Au verset 9, Paul va dire qu'ils ont reçu la parole. Un peu plus tard, dans Galates 5, verset 10, ça laisse entendre aussi que les Galates, voilà, ils avaient quand même compris l'évangile, ils se sont tournés vers Dieu. Mais là, ils se sont en train d'égarer sur un mauvais chemin. Ils sont en train de s'égarer vers ces hérésies dont on parlait dans l'introduction. L'hérésie de vouloir ajouter à la foi. Et donc, cet autre évangile, quelles sont ses caractéristiques? Ses caractéristiques du faux évangile? Et ce que Paul dit, c'est que, oui, alors, je vous dis, vous vous détournez vers un autre évangile, mais ce n'est pas un autre évangile, c'est un faux. Et c'est important de noter que, et Paul le note, c'est qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a pas plusieurs options. Alors, oui, sur les détails, on pourra ne pas être d'accord, mais sur les fondements, il ne peut y avoir qu'un seul évangile. Et dès qu'on part de cet évangile, de cette idée que tout est accompli à la croix, dès qu'on veut ajouter quelque chose, Et ben là, on tombe dans le faux évangile. Le faux évangile ici, c'est d'accepter l'œuvre de Christ, de dire oui, il faut la foi, il faut croire en Christ, mais il faut aussi suivre la loi mosaïque. Et voilà. Les personnes à l'origine, ce sont des faux apôtres, des faux enseignants, des faux docteurs. Et Paul va dire, voilà, qu'il déforme l'évangile de deux façons. Qu'ils sont une cause de problème pour deux raisons. D'abord, en effet, c'est qu'ils déforment l'évangile véritable pour le pervertir, pour le rendre autre, pour enlever de la grâce, pour dire que le salut se mérite, pour dire que l'œuvre de Christ ne suffit pas, qu'elle était limitée, incomplète, qu'il faut autre chose. Donc, ça, c'est le premier problème. Le premier problème, c'est qu'ils apportent un faux évangile. Mais le deuxième problème, c'est qu'ils troublent les chrétiens. Ce serait une chose s'ils le croyaient eux-mêmes. On peut penser peut-être dans Romains, quand Paul va parler du faible et du fort, il va dire voilà, que le faible ne juge pas le fort, que le fort ne méprise pas le faible. Mais là, le souci, c'est que voilà, ils font du prosélytisme, ils font de la voilà, ils essayent de convertir les gens à leur cause. Et du coup, plutôt que de fortifier la foi de ces frères, de ces frères et sœurs galates, de ces assez nouveaux chrétiens, et ils vont secouer la foi, ils vont secouer ses fondements, ils vont renverser l'évangile. Et au final, ce faux évangile est presque pire que quelque chose de complètement faux. C'est quelque chose où il y a du vrai. C'est quasiment la bonne chose. Et c'est peut-être pire que quelque chose de complètement faux. C'est souvent plus facile de dire « Ah non, là, c'est complètement faux, c'est sûr, je m'y aventure pas. » Mais là, c'est quelque chose de plus pernicieux, de plus vendeur. Notamment parce que, c'est dur de se dire des fois qu'on n'a rien à faire. Dieu a tout fait à la croix. Et on aimerait pouvoir, faire quelque chose pour mériter. Mais on ne peut pas. Et heureusement, on n'a pas besoin de le faire, puisque Jésus a tout fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ces faux évangiles, qui sont presque le vrai évangile, on en trouve beaucoup. Et on a besoin de discernement à ce sujet. Là, c'est des personnes qui étaient dans l'église de Galate, qui étaient en train de, faire la promotion de ce faux évangile. Ça peut aussi être le cas, ça peut être des vraies personnes qui nous parlent. Après, aujourd'hui, maintenant, on a aussi Internet, où on trouve de tout. C'est, si on cherche des choses sur Dieu sur Internet, c'est pas garanti qu'on tombe sur le vrai évangile. Nous avons besoin de discernement, tout comme les Galates avaient besoin de discernement. Mais qu'arrive-t-il à ces faux enseignants? Quel est leur sort? Eh bien, Paul, il dit qu'ils soient maudits, ces personnes qui déforment l'évangile de Dieu. C'est dur, tout comme il était dur pour les Galates, mais ça montre tout l'importance de rester fidèle au vrai évangile. Le faux évangile ne sauve pas, et c'est tout l'importance de vivre le vrai évangile. Et voilà, il pose l'hypothèse, même si c'était moi qui vous annonçais un faux évangile, même si c'était un ange, on pense peut-être à Satan qui se déguise en ange de lumière aussi, peu importe la personne, peu importe que ce soit quelqu'un super spirituel, super connu, quelqu'un en qui on a confiance, S'il annonce le faux évangile, bah, ce n'est pas bon. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évaluer, il faut discerner. Est-ce que ce qu'on m'annonce est le vrai évangile? Et donc, en tout cas, voilà, juste un mini contraste. La différence ici qu'on a entre le faux et le vrai évangile, le faux évangile, c'est je crois et j'obéis à Dieu pour mériter sa faveur, donc je suis sauvé. L'évangile de Christ, le vrai évangile que Paul défend, c'est que je crois, donc je suis sauvé, et donc j'obéis à Dieu pour lui plaire. Et donc Paul écrit aux Galates pour les rappeler à l'ordre. Et voilà, je pense que c'est aussi un rappel à l'ordre qu'il faut nous aussi écouter. Il n'y a qu'un seul évangile. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de diversité, de la richesse des différences, et c'est vrai, il y a de la richesse dans nos différences. Mais sur les fondements de l'évangile, il ne peut pas y avoir de diversité. L'évangile de Dieu est unique, il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas de deuxième choix. Je vous invite donc, je nous invite à nous examiner. Sommes-nous fidèles à la parole, à cette bonne nouvelle, ou y avons-nous ajouté? Est-ce que nous vivons un évangile au rabais, ou au contraire, un évangile contraignant, dur? Nous verrons dans les semaines qui viennent, donc dans les messages qui suivent, plus de détails sur ce que Paul a à nous dire, sur ce vrai évangile, ce faux évangile. Il va rentrer plus dans le détail. Mais que nous puissions tirer déjà de cette introduction l'idée que nous devons plaire à Dieu et non aux hommes, en vivant fidèlement la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui s'est donné pour nos péchés, pour nous arracher du monde mauvais. Je vous invite à prier. Notre Père, je te remercie parce que tu nous as donné ta parole et tu nous as donné ton évangile. Et on peut s'y fier. Tu vois comme il y a des torsions, des déformations dans l'évangile qui sont présentes aujourd'hui, tout comme à l'époque de Paul. Mais Seigneur, on te demande de nous aider à discerner. Aide-nous à rester fidèles à ton évangile vrai, celui qui sauve. Merci parce que voilà, tu nous as sauvés par grâce, alors qu'on ne le méritait pas. Merci parce que tu as envoyé ton Fils alors qu'on était tes ennemis pour nous mourir à notre place. Merci parce que tu nous arraches du pouvoir du monde mauvais aujourd'hui. Tu ne nous enlèves pas du monde, on est toujours dedans. Mais Seigneur, nous ne sommes plus sous sa domination. Et Seigneur, nous voulons vivre cette liberté que nous avons en toi.